Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce deuxième dimanche après l'Épiphanie, nous méditons quelques instants sur les noces de Cana. Comme c'est un évangile extrêmement riche, il nous a fallu choisir un aspect qui était montré ici par notre Seigneur, peut-être pas celui qui est directement visé par l'évangile, mais au moins un aspect important. Notre Seigneur Jésus-Christ fait son premier miracle, inaugure sa prédication, inaugure sa vie publique lors d'un mariage. Et il me semble important d'insister justement sur ce qu'est le mariage, et spécialement le mariage chrétien. L'Écriture sainte s'ouvre sur la création de l'homme et de la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Déjà, le mariage est signifié dans les premières pages de la Genèse. L'Écriture sainte s'achèvera sur la grande vision de Saint Jean, vision des noces de l'agneau dans l'Apocalypse. Aussi, du premier livre de la Bible jusqu'au dernier, du premier et du dernier, il est bien fait mention du mariage, de cette réalité de l'union de l'homme et de la femme. La vocation au mariage est inscrite dans la nature même de l'homme et de la femme. Ce n'est pas une institution purement humaine, c'est une institution divine. Dieu l'a voulu ainsi en créant l'homme tel qu'il est et la femme telle qu'elle est. Dieu appelle l'homme à vivre à son image. Effectivement, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il doit donc, non seulement dans son être, mais aussi dans son agir, refléter Dieu. Or, nous le savons, Saint Jean nous le dit, cela nous est révélé, Dieu est amour. Aussi, l'homme et la femme ne seront jamais autant proches de Dieu quand ils vivront de l'amour. Évidemment, il faut rappeler immédiatement le beau passage de Benoît XVI dans sa dernière encyclique, Caritas in Veritate. Il n'y a pas d'amour sans vérité, parce qu'il y a une vérité de l'amour. L'amour n'est pas n'importe quoi, et il le dit, l'amour n'est pas une coque vide dans laquelle il n'y aurait rien, ou plutôt dans laquelle on placerait ce qu'on voudrait bien placer, ce que font évidemment tous les modernes, et parfois même nous-mêmes. Aussi, Dieu appelle l'homme à vivre à son image, à vivre de l'amour. L'homme et la femme sont créés l'un pour l'autre. Et nous avons, dans le récit de la Genèse, que je ne reprendrai pas en entier, mais sur lequel il y a deux points, en disant que l'homme a été créé à l'image de Dieu, eh bien, homme et femme, il les créa, dit la Sainte Écriture, il est bien montré l'unité de la nature humaine. Qu'on soit homme ou femme, la nature humaine se réalise dans toute son essence, même si ensuite, le Seigneur annonce la différence. Homme et femme, il les créa. C'est-à-dire que non seulement il y a une unité de nature, une unité aussi de destinée, à savoir destinée surnaturelle, il nous faut vivre à l'image de Dieu qui est amour, mais aussi, eh bien, il faudra accepter cette différence et cette complémentarité. Nous ne sommes pas les mêmes. Homme et femme, il les créa. Et nous savons combien cette institution de Dieu, cette volonté de Dieu, cette nature même inscrite en nous est combattue de nos jours, spécialement par une idéologie dont on entend de plus en plus parler, à savoir l'idéologie du genre, qui veut jusqu'à nier la nature humaine particularisée, soit en homme, soit en femme. Malheureusement, après cette belle création, après le fait que Dieu, eh bien, va donner la femme à l'homme, comme dans un mariage, puisque nous voyons Dieu qui, après avoir créé la femme, eh bien, prend et l'amène à Adam. Un peu comme un père de famille, eh bien, va amener sa fille à son mari. chose extrêmement magnifique, chose belle entre toutes. Et le cri d'exclamation qui a été celui d'Adam, voici l'eau de mes os et la chair de ma chair, eh bien malheureusement cette exclamation ne va pas durer extrêmement longtemps. Le péché originel va troubler l'harmonie originelle. Et à l'exclamation de joie d'Adam, il peut enfin aimer quelqu'un qui lui ressemble et qui lui apporte quelque chose, et non pas seulement les animaux, les plantes, l'univers même pris dans son entier. Eh bien, après l'exclamation de joie, il y a l'accusation. Pourquoi as-tu fait cela? Et Adam accuse Ève, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Non seulement accusation de la femme, mais accusation aussi de Dieu, c'est la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Accusation qui devient donc suspicion, défiance l'un par rapport à l'autre, et le manque de transparence, le manque d'harmonie, eh bien, se trouve spécialement dans cette belle phrase de l'Écriture, eh bien, il leur a fallu prendre des vêtements pour se cacher l'un à l'autre. Il y a effectivement cette transparence qui leur manque. La défiance et la restauration qui va progressivement se faire jour tout au long de l'Ancien Testament va arriver jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Petit à petit, il faut à l'homme et à la femme retrouver une certaine confiance. Et Dieu va, tout au long de l'Ancien Testament, donner sa grâce progressivement pour qu'il y ait restauration progressive de l'harmonie originelle. Jusqu'à notre Seigneur, qui en saint Matthieu peut dire, au commencement, il n'en était pas ainsi, lorsque les Juifs lui demandent s'il est possible de répudier son épouse pour n'importe quel motif. Il faut savoir qu'à l'époque, certains rabbins pensaient bien qu'il était possible de répudier son épouse même pour un plat qui avait été brûlé. Alors, eh bien, les Juifs se demandaient s'ils pouvaient effectivement faire cela. Notre Seigneur n'est pas du tout pour, et il dit au contraire, eh bien, qu'à l'origine, il n'en était pas ainsi. Il rétablit l'harmonie originelle. Il rétablit ce qui était au commencement, mais il agit ici comme législateur suprême, puisque l'opposition des Juifs est de dire « Mais Moïse nous a permis de répudier. » En donnant une nouvelle législation, le Christ se montre comme nouveau Moïse, supérieur à Moïse. Mais quand le Christ reprend les choses, quand le Christ restaure ce qui a été blessé par le péché originel, il fait œuvre plus belle encore. Il ne peut pas ne pas faire œuvre plus belle. Il fait ici un sacrement. Et nous avons, eh bien, ce qu'il en est signifié dans ce bel évangile d'aujourd'hui. Il ne va pas redonner seulement du vin de Cana. Il va faire un miracle excellent. Il va donner un vin qui dépasse de loin celui qui était auparavant donné lors de ce mariage. Et non seulement il va faire quelque chose en qualité supérieure, mais aussi en quantité supérieure, puisque ces jarres de dons destinés aux purifications des Juifs sont énormes et immenses. Aussi, le miracle veut montrer la profusion dans les œuvres du Seigneur. La qualité est meilleure, la quantité est bien plus grande. Ici, le Christ élève à une réalité naturelle, une réalité naturelle à produire la grâce. Il veut montrer que ce qui était de l'eau, eh bien, va devenir et devient effectivement du vin. De même, le mariage, réalité naturelle, réalité déjà signifiée au commencement, eh bien, va être prise et élevée au rang surnaturel. Il va donner une réalité nouvelle à cette réalité de nature. Le mariage devient donc désormais chemin de sanctification par la grâce qui est donnée par ce sacrement. Et pas seulement, comme autrefois, à l'occasion de ce sacrement, puisque le bon Dieu donne toujours des grâces pour vivre correctement dans l'état dans lequel nous sommes. Mais ici, le Christ veut que ce ne soit pas la grâce qui soit donnée au moment où on conclut le mariage, mais que ce soit le sacrement lui-même, l'échange des consentements, la réalité matrimoniale qui donne la grâce elle-même. On peut dire que la grâce passe dans la parole, eh bien, de ceux qui échangent les consentements. À ce moment-là, une grâce habituelle, une grâce sanctifiante, colorée parce qu'elle a une finalité particulière, est donnée par Dieu et produite par le sacrement. Le sacrement qui est quelque chose de magnifique. Ce n'est pas seulement l'union de l'homme et de la femme pris naturellement. C'est un sacrement qui est à l'image de l'union du Christ et de l'Église. Et nous le savons parce que l'apôtre saint Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Éphésiens. Le Christ va donner sa vie pour l'Église. Et aussi, il demande aux maris eh bien, de donner leur vie pour leur épouse. D'une manière ou d'une autre, il faut donner sa vie. Et de même, l'Église va donner sa vie pour le Christ. De quelle manière l'Église donne sa vie? Eh bien, elle donne sa vie par la prière continuelle. Elle s'occupe du Christ, spécialement dans l'Eucharistie, mais aussi dans tous les sacrements qu'elle distribue. Non seulement elle s'occupe de l'humanité, mais elle s'occupe du Christ qu'elle va rendre présent dans l'humanité. Et elle va disposer, spécialement, l'humanité à voir venir, eh bien, le Christ, à accueillir le Christ. Voilà ce qu'elle fait. Elle dispose au don et à l'accueil du don. Par la prière continuelle, par les sacrements, mais aussi par la fidélité à sa doctrine, elle est fidèle à la parole du Christ et également en donnant des saints, en donnant des martyrs qui montrent qu'effectivement, une partie de l'Église, cette partie qui est la personne qui va être martyrisée, se donne totalement sans retour au Christ lui-même. L'union est donc totale, l'union est donc exclusive, l'union est donc indissoluble entre le Christ époux et l'Église, son épouse. Aussi, il nous est demandé eh bien, de montrer cette union du Christ et de l'Église dans chacun des mariages qui est réalisé. Non seulement il faut vivre correctement, non seulement il faut vivre humainement et bonnement, mais il faut vivre chrétiennement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit, lorsque eh bien, nous vivons du mariage, eh bien, il faut que les gens voient ici la réalité du Christ et de l'Église, la réalité de l'union sainte réalisée dans le Saint-Esprit, de l'union du Christ et de l'Église. Il faut donc demander la grâce. Et je crois qu'il faut donc demander la grâce spécialement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus. C'est lui qui va le donner à l'Église. Et l'Église, l'âme de l'Église, c'est vraiment l'Esprit Saint, comme l'enseigne la doctrine catholique. Aussi, si le Christ et l'Église sont unis, ils sont spécialement unis par la personne même du Saint-Esprit. Aussi, il faut que dans chaque mariage, eh bien, il y ait cette union des esprits, ou plutôt l'union dans l'Esprit Saint. Et l'union des esprits ne se fera que dans l'union avec l'Esprit Saint. Si nous sommes en réalité unis dans l'Esprit Saint, alors nos esprits sont unis entre eux. Et c'est cela, l'amour, c'est l'union des volontés qui ne fait plus qu'un, comme dirait saint Thomas d'Aquin si justement. Alors, demandons eh bien, à notre Seigneur, demandons à Notre-Dame eh bien, de savoir goûter cet évangile des noces de Cana. Les mariés ont invité le Christ, qui est vraiment le socle du mariage. Ils ont invité la Sainte Vierge, ce qui nous demande eh bien, à accueillir la Vierge dans chacun des foyers eh bien, qui est formé. Et également, il est invité les disciples du Christ, les apôtres, on pourrait dire l'Église dans sa préfiguration. Aussi, il nous faut savoir vivre du mariage dans l'Église. Spiritualité mariale, spiritualité ecclésiale également, tout cela sur le socle de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons toutes ces grâces alors et demandons-les bien spécialement à tous ceux, et bien pour tous ceux qui se prépare au mariage cette année, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.